Je suis vraiment touchée par les chants qu'on a pris ce matin, parce qu'ils vont dans le sens de mon propos. Alors vous me direz, c'est facile, ils ont discuté ensemble tous les deux. Eh bien, pas du tout. Cyril savait certainement, puisque vous le savez aussi, que nous sommes dans le livre de Ruth. Peut-être qu'il savait dans quel chapitre nous allions être. Il ne savait pas sous quel angle je vais traiter ce texte aujourd'hui. C'est un texte tellement riche. Je ne vais pas vous en dire le dixième, je crois. Mais l'angle qui sera pris, c'est celui du refuge en Dieu. C'est celui qui nous montre que notre secours, il est en Dieu, que Dieu est au-dessus de tout, que c'est le seul qui peut nous venir en aide. J'ai déjà assez chaud. Dieu est le seul qui peut nous venir en aide. Mais ça signifie de notre part quelque chose. Ça signifie pour bénéficier complètement de ce surabri, de ce refuge, ça signifie un changement de mentalité. Et nous allons parler d'un changement de mentalité, ou en tout cas d'une mentalité tout court. De quelle mentalité avons-nous besoin? Et pour ça, nous allons regarder encore une fois l'histoire de Ruth. Ruth, elle a une mentalité exemplaire. Ruth, elle nous représente. Quelque part, elle est une exhortation pour quelle mentalité nous devons ou devrions avoir. Et Boaz, il est un type de Jésus-Christ. C'est-à-dire que même si cette histoire, elle date de 1200 ans avant Jésus-Christ, prophétiquement, il nous parle de certains traits de caractère de Jésus. Souvenez-vous, pour ceux qui doivent raccrocher les wagons, nous sommes donc dans le troisième chapitre de Ruth. Le premier chapitre, Elimelec, qui est un Israélite qui vit à Bethléem. Bethléem, la ville qui s'appelle Maison du Pain, vit une famine. Et Elimelec, au lieu d'être solidaire avec son peuple, il prend sa femme Naomi, ses deux fils, et ils partent s'exiler à Moab dans la terre ennemie. Et là, les deux fils de Elimelec prennent chacun une femme moabite. Et ensuite, Elimelec meurt, et ses deux fils aussi. Et on retrouve trois femmes veuves. L'une des belles-filles reste à Moab, et elle va certainement retrouver un autre mari dans son peuple, dans sa culture, etc. Et Ruth, par contre, Ruth qui est moabite, et qui pratique l'idolâtrie avec les multiples dieux que ça représentait, et qui poussait souvent à la débauche et à toutes sortes de débordements, Ruth s'attache à sa belle-mère et elle dit à Naomi, « Je ne te quitterai point, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et les deux femmes retournent à Bethléem. Et le deuxième chapitre, c'est quand Ruth demande à sa belle-mère, « Est-ce que tu me permets d'aller glaner » C'est-à-dire, tu me permets d'aller trouver un champ où les moissonneurs sont en train de travailler et de ramasser les épis qui tombent par terre pour que nous puissions manger quelque chose. Parce que être femme, être veuve, et en plus de ça, être étrangère, eh bien, en fait, c'était être en dessous des pâquerettes. C'était vraiment le plus bas statut de la société. Mais Ruth, elle est dans l'humilité. Elle comprend qui elle est. Elle comprend son identité. Et puis, elle est d'accord. Et elle va travailler dans un champ qui, par bonheur, par un hasard divin, est celui de Boaz. Elle ne sait pas que Boaz fait partie du clan de Naomi, ou plutôt du clan d'Elimelec. Elle ne sait pas que c'est un parent. Mais nous avons vu qu'il est riche et puissant. Et nous avons vu aussi qu'il a favorisé les circonstances pour que Ruth soit protégée. Il a assuré sa protection, son intégrité au niveau physique, mais au niveau de sa personne. Et il a fait en sorte aussi qu'elle puisse glaner beaucoup. Il a dit aux ouvriers, mais quand vous moissonnez, laissez quelques épis tomber par terre, sortez des épis, des gerbes, l'air de rien, comme ça elle en aura plus. Voilà ce que Boaz a fait. Et cette situation, elle nous parle un peu de notre état en fonction du Seigneur. Ruth, elle a fait une rencontre avec Boaz, comme nous avons fait une rencontre avec le Seigneur. Elle bénéficie d'une partie de ses bénédictions. Elle peut manger à sa faim, elle peut glaner, elle est en sécurité. mais il n'y a pas encore eu de relation. Il n'y a pas encore eu d'intimité. Il n'y a pas encore eu quelque chose de plus profond. Ruth n'a pas encore vécu la transformation dont elle a besoin. Elle est toujours veuve. Elle est toujours étrangère. Elle est toujours pauvre. Quelque chose n'a pas changé. Et nous allons voir comment les choses vont commencer de changer. Parce que nous n'allons pas voir l'histoire en entier aujourd'hui. Nous sommes dans Ruth, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, la belle-mère de Ruth, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. » R-A-I-R-E, hein ? C'est pas l'air oxygène. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Naomi envoie Ruth à l'air. Boaz doit aller vanner son orge à l'air. L'air, c'est l'air de battage, c'est l'air de vanage. Il s'agit en fait d'une aire qui est sur une surface plane et qui est exposée au vent. Pas forcément un fort vent, mais il y a toujours en tout cas une brise légère. Et ça sert, une fois que le grain a été battu, de pouvoir le vanner. Et le vanner, c'est vrai, quand on parle d'un vent, nous, on a plutôt à l'idée ce panier rond, presque plat, avec un petit rebord pour que le grain ne tombe pas. On met le grain dedans et on le secoue, on l'agite fortement et ça fait détacher la paille et la paille, elle peut s'en aller avec le vent. Mais à l'époque, le vanage, c'était un peu différent. Il fallait une fourche avec des longues dents. Et on prenait cette fourche et on remuait le grain, les gerbes, et pour ça faisait disséminer la paille. Ça permettait de détacher la paille du grain pour ne garder que ce qui est bon. L'aire de battage, c'est une aire où il y a un tri. Alors pourquoi est-ce que Boaz doit dormir à l'aire de battage une fois que la moisson est terminée? Eh bien parce que chaque propriétaire n'avait pas une aire de battage. L'aire de battage, c'était un lieu public. Ça appartenait à toute la communauté. Alors, il fallait faire la queue-leu-leu. Il fallait attendre son tour. Donc, les gerbes, imaginez, après 6 à 7 semaines de moisson, les gerbes sont accumulées et il n'y a pas de lampadaire. Il commence à faire nuit et c'est le moment propice pour les voleurs d'aller un peu se servir. Mieux vaut dormir sur place et veiller au grain. Mais imaginez un petit peu l'état de Ruth. Parce que Naomi lui demande quand même de faire quelque chose d'un peu particulier. Et souvenez-vous, Boaz, il n'est pas tout jeune. Naomi demande à Ruth d'aller à l'aire de battage, d'attendre, d'être discrète, de ne pas se faire connaître, jusqu'à ce que Boaz aille se coucher. Et elle lui dit, découvre ses pieds et couche-toi. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il pouvait arriver qu'une servante aille se coucher aux pieds de son maître pour bénéficier d'un bout de couverture. Mais on peut imaginer sur quoi ça pouvait se terminer. Et il y a autre chose, c'est que les pieds. Les pieds en hébreu, ce terme des pieds, ça veut bien parler de nos pieds sur lesquels nous marchons. Mais ça veut aussi parler de quelque chose qui se trouve un petit peu plus haut. Les parties intimes, et vu qu'on n'ose pas exprimer trop ce mot, c'est comme quand on dit, en fait c'est un euphémisme, c'est comme quand on dit « je vais au petit coin », c'est parce qu'on n'aimerait pas dire les choses telles qu'elles sont. Mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et bien quand on parle des pieds, c'est à double sens. Et dans ce texte, il y a énormément de double sens. Et le double sens, il est assez ambigu, il est assez équivoque. Alors qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je pense que pour commencer, il faut rester au sens premier des termes. Toujours est-il que découvrir les pieds, de quelqu'un, ça pouvait signifier une demande en mariage non verbale. Est-ce que Ruth est au courant? On ne sait pas, elle est étrangère. Est-ce qu'elle a eu le temps de connaître cette culture-là, ces coutumes? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a envie, est-ce que c'est son propre désir d'épouser quelqu'un qui est bien plus âgé qu'elle? Peut-être qu'elle aurait préféré épouser quelqu'un dont elle est amoureuse, qui a à peu près son âge. On ne sait pas trop. Mais Naomi lui dit, j'aimerais que tu sois heureuse, je voudrais assurer ton repos. J'aimerais que tu sois heureuse. Si Naomi lui demande de faire ça, c'est pour son bien. Et Ruth, nous avons vu la dernière fois, elle est soumise à sa belle-mère. Elle lui reconnaît une certaine autorité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Ruth, elle est dans l'obéissance et la soumission et la confiance. C'est une mentalité de foi. C'est une vraie mentalité de foi. Obéissance et confiance. Obéir pour quelque chose que je dois faire et que je n'ai pas forcément envie de faire, mais dans la confiance que le Seigneur me le rendra d'une manière ou d'une autre et que ce sera pour mon bien. Jésus, quand il était avec ses disciples, il leur a dit en Matthieu 16, les versets 24 et 25, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut me suivre, donc si quelqu'un veut être mon disciple, donc si quelqu'un veut vraiment s'engager, engager sa vie avec moi, s'il veut être authentique, s'il veut marcher dans la vérité, c'est pas le tout d'embrasser la foi chrétienne. Si quelqu'un ne veut pas juste avoir les connaissances et les bénédictions de la foi chrétienne, mais veut vraiment m'appartenir, veut vraiment vivre quelque chose de vrai, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et ce que Ruth fait, c'est qu'elle ne cherche pas à sauver sa vie, mais à la perdre. Comment est-ce qu'on fait pour sauver sa vie? On sauve notre vie chaque fois qu'on cherche à répondre à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, à sauver la face. Si je me suis trompée, ben, au lieu de dire « Ah ouais, je me suis trompée » ou « Je te demande pardon parce que », si on rajoute « Mais en fait, c'est parce que », eh bien là, on est déjà dans la propre justice. On est en train de sauver la face. Quand on accepte « Ben oui, j'ai fait faux. » Point final. « J'ai fait faux, je te demande pardon. » Point. Là, on est en train de perdre notre vie. On n'a plus peur de perdre la face. Mais quelque part, c'est ce qui va nous relever. Ça fait toujours partie de cette humilité. Perdre sa vie, c'est se dire, mais le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes une communauté, que nous devons être ensemble, que nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est s'occuper du plus fragile, du plus faible. Alors, quand j'ai la possibilité de rendre service, je rends service. Ça, c'est sauver sa vie. Pardon, c'est perdre sa vie pour la retrouver. C'est se donner aux autres. C'est s'engager. Et nous le retrouverons. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais nous le retrouverons. Jésus, c'est notre plus grand exemple. C'est le plus grand exemple de celui qui s'est sacrifié, de celui qui a perdu sa vie pour la retrouver. Il s'est sacrifié parce que lui qui n'avait pas expérimenté le péché, qui ne savait même pas ce que ça fait comme impression de dire un mensonge ou de blesser quelqu'un ou de faire du mal, il ne l'a tellement pas expérimenté, il était sans péché, complètement pur. Jésus s'est fait lui-même péché, il s'est fait péché du monde, il s'est fait notre laideur, il a pris sur lui toutes nos injustices, nos mochetés, tout ce qui fait que notre impureté, tous nos échecs, toutes ces choses-là, il les a pris à la croix, il en est mort. Il a perdu sa vie pour nous. Mais combien il l'a retrouvée? Non seulement il est ressuscité, Mais le Père l'a souverainement élevé et actuellement, il règne au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dénomination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout esprit contraire. Jésus est au-dessus. Alors ça devrait nous encourager à perdre notre vie pour la retrouver en Christ, à ne pas chercher à la sauver, mais à avoir une vraie mentalité de disciple. Ruth, elle a dit « Je ferai tout ce que tu as dit ». Elle s'est abandonnée, elle s'est donnée. Mais on va quand même aller voir la suite de l'histoire. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Et c'est là qu'on sort les violons. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu ? » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante car tu as droit de rachat. » Et il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. » Le premier, c'est tout ce que Ruth a consacré à sa belle-mère. C'est d'être allée glaner, c'est de s'être occupée de sa belle-mère. « Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire toute la ville, sait que tu es une femme vertueuse ou une femme de valeur. » Boaz est surpris. Mais il n'est pas seulement surpris, il est émerveillé. Il n'est pas émerveillé parce que Ruth est jeune. Il n'est pas émerveillé parce qu'elle est belle. Il n'est pas émerveillé parce qu'elle est entreprenante, bien que, peut-être un petit peu. Mais il est émerveillé à cause de sa mentalité. Et en plus de ça, elle est intelligente parce qu'elle lui dit « Étends ton aile ». Alors pour ceux qui suivent dans leur Bible, peut-être que vous avez « Étends le pan de ton vêtement ». Et c'est là qu'il y a aussi des doubles sens, parce que les termes qui sont utilisés ont plusieurs significations. Donc l'un et l'autre sont justes. Mais ça peut changer un petit peu l'interprétation. Toujours est-il que Ruth, elle rebondit sur ce que Boaz a dit au dernier chapitre, le chapitre précédent. Vous vous souvenez quand il y a une interaction entre Boaz et Ruth? Et Boaz, il dit à Ruth que l'Éternel te rende tout ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Quand Ruth le remercie pour sa bonté, lui, il en fait référence à l'Éternel. Il dit non, c'est pas ma protection que tu es venu chercher, c'est celle de l'Éternel. Et Ruth, elle rebondit, elle prend le même vocabulaire et elle lui dit « Étends ton aile sur moi ». C'est comme si on croit en Dieu. Mais là, Ruth, elle dit, « Jésus, sois mon Seigneur, sois mon mari, protège-moi, sois mon Sauveur. » Il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité et de la protection. Et la traduction étant « le pan de ton manteau sur moi » est aussi juste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les cérémonies de mariage, à un moment donné, l'époux, il prend son manteau et il l'étend sur son épouse pour marquer qu'il va la protéger. Et en même temps, cette expression signifie entrer dans une relation conjugale. Alors c'est vraiment lourd de sens. Et Ruth, elle lui dit les choses d'une manière, quand elle dit « étends ton aile ou le pan de ton vêtement sur moi », elle lui dit, mais quelque part, elle lui dit « protège-moi », puis d'un autre côté, elle lui dit « épouse-moi ». Mais c'est comme si elle laisse le choix à Boaz. Parce que Boaz, il a le droit, mais pas le devoir. En fait, le devoir de s'occuper des pauvres, le devoir du droit de rachat, il l'a déjà accompli. Il a déjà assuré sa protection. Il a assuré sa protection alimentaire. Il a déjà fait tout ça. Il n'a pas besoin de faire plus. Et il n'est pas le proche parent. Donc s'il fait quoi que ce soit, sera par bonté et par grâce, comme le Seigneur envers nous. Mais Ruth, elle se rend compte qu'elle en a besoin, alors elle le lui demande. Et pourquoi est-ce qu'il dit que ce trait est encore plus important que le premier? Eh bien, il y a cette petite phrase qu'elle rajoute. Elle dit « parce que tu es un Goël ». Elle dit « parce que tu as le droit de rachat ». Et en hébreu, c'est écrit « parce que tu es un Goël ». Et nous l'avons vu la dernière fois, le mot « Goël » veut dire « rédempteur ». Elle dit « étends ton aile sur moi parce que tu es rédempteur ». En fait, parce que tu as la possibilité. Et Boaz, là, il comprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et que c'est même pas pour elle-même que Ruth fait la démarche. Elle va encore plus loin. Elle n'a pas des sentiments amoureux, mais elle a un amour et une mentalité de tel sacrifice qu'elle va encore plus loin. Quand elle lui dit « exerce le droit de rachat », nous avons vu ce droit de rachat, il est très large. Par exemple, quand un pauvre devait vendre son lopin de terre parce qu'il n'arrivait plus à subvenir à ses besoins, qu'il avait besoin de cet argent, s'il vendait cette terre à un étranger, celui qui avait le droit de rachat, c'était quelqu'un de son clan, pouvait racheter cette terre pour que cette terre revienne dans le clan familial. Et tous les 50 ans, l'année du jubilé, les terres devaient être rendues au propriétaire initial. Ça empêchait que la pauvreté progresse et ça empêchait que l'amas des richesses ne progresse trop. C'était un équilibre dans la société. Et avec ce droit de rachat, eh bien, il y avait autre chose. Il y avait le fait qu'un homme devait épouser la veuve de son frère si son frère était sans enfant, histoire de relever la descendance. Et Boaz, il est en train de capter tout ça. Il est en train de se dire, mais Ruth, elle ne fait pas ça pour elle-même. Elle fait ça pour Naomi, pour Elimelech, et puis pour son mari. En fait, elle aimerait relever la descendance d'un peuple, d'une famille qui n'est même pas son peuple et sa famille. Elle est dans le sacrifice total. Elle se donne et ça touche son cœur. Quelle mentalité! Quelle mentalité! Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Quand on dit au Seigneur, mais épouse-moi, protège-moi, ça veut dire qu'on va être d'accord d'adopter la mentalité de son royaume, l'éthique du royaume de Dieu. Ça veut dire que nous n'allons plus vivre seulement pour nous-mêmes. Nous aurons les bénédictions, bien sûr. Mais ça veut aussi dire que nous devons nous détacher de certaines choses pour être toujours plus proches du cœur du Seigneur, pour faire comme lui, lui qui n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Lui qui n'a pas eu peur de s'occuper de tous ceux qui venaient vers lui, et encore maintenant. Nous devons adopter cette même mentalité. Et moi, ce qui m'a tellement touchée dans ce texte, c'est que ça se passe à l'ère de vannage, l'ère de battage. C'était la nuit où Boaz devait vanner son grain. Vous savez, cette ère, c'est aussi un lieu de transaction légale. C'est un lieu où il y a aussi des jugements pénaux et des décisions publiques. Et dans Matthieu, quand Jean-Baptiste il prophétise sur Jésus, il dit, en Matthieu 3,12, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Il est question du jugement dernier. Il y aura un tri. Mais moi, je crois que nous devons déjà aller à cette ère de battage. Je crois que s'il y a un jour, nous avons reçu le Seigneur, que nous avons vécu une réelle repentance, une réelle conversion, nous l'avons pris pour notre Seigneur, pas seulement notre Sauveur, mais notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes déjà allés à cette ère de battage. Quelque part, nous avons déjà été vannés parce que nous avons reconnu notre état de pécheur. Mais je crois que nous avons tous besoin d'y retourner encore et encore et encore, parce que nous avons de la paille qui nous colle à la peau et nous avons besoin encore d'être vannés. Et le fait d'aller vers le Seigneur et de lui dire « mais épouse-moi », ça veut dire mais en fait que nous soyons un, Le mariage, c'est être une seule chair, c'est faire une alliance de sang. Ça veut dire, mais Seigneur, mais remplis-moi de ta présence, transforme ma mentalité, restaure mon âme, restaure mon cœur, change-moi, transforme-moi, que nous fassions un, que je puisse comprendre ton cœur, que je puisse ressentir tes sentiments, que j'ai des entrailles émues de compassion quand je dois être émue de compassion, que je puisse avoir ton esprit qui me remplit pour être puissante dans la prière quand je prie pour un frère ou une sœur. Donne-moi d'avoir la force de te suivre là où tu me places, que je sois influent là où je suis, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un centre commercial, que ce soit à l'école, que ce soit dans la cour de l'école, que ce soit devant un professeur, devant un patron, devant un ouvrier. Seigneur, que je te reflète, que je sois comme toi et que je puisse voir cette personne comme toi, tu la vois. Et donner ce que je peux donner pour qu'elle soit bénie, pour que son cœur se rapproche du tien. Aller à l'aire de battage, c'est dire, Seigneur, je suis d'accord, enlève la paille. Sépare-moi de tout ce qui te fait obstacle, tout ce qui fait que je n'arrive pas à être entièrement à toi et que j'essaye encore de sauver ma vie. J'ai besoin que tu sauves ma vie. J'ai besoin d'être transformée. Je ne crois pas que le Seigneur veuille qu'on le connaisse de loin. Je ne crois pas qu'il désire que ce soit juste une connaissance intellectuelle ou superficielle. Mais il veut que nous soyons profondément restaurés. Et lui seul peut le faire. Boaz est touché. Boaz est touché parce que Ruth est d'accord de se faire vanner. Elle est d'accord, j'ai presque envie de dire, d'hypothéquer sa vie. En fait, elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà complètement fait, mais elle va encore plus loin dans le sacrifice. Elle s'oublie complètement. Et elle se donne, elle s'abandonne dans la confiance, dans l'obéissance et la confiance. Alors Boaz continue. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant, c'est-à-dire j'en fais le serment. Reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'aire. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Pendant toute la moisson, Boaz a laissé Ruth glaner. Glaner, 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 ramasser son grain, se fatiguer. Et là, tout à coup, il la charge de blé. Pourquoi ? Eh bien, moi, je crois que Boaz, il veut sauver sa réputation. Et il veut sauver la réputation de Ruth. Parce qu'imaginez, le jour commence à se lever et une femme toute seule rentre comme ça à la maison à des heures un petit peu particulières. Imaginez comme ça va jaser dans la ville. Alors ce Boaz, il va avec qui ? Et puis cette femme, on disait que c'était une femme vertueuse. Est-ce que vraiment ? Par contre, en la chargeant de grains, quand les gens vont la voir rentrer, ils vont se dire « Waouh ! Elle a travaillé une partie de la nuit où elle s'est levée tellement tôt le matin pour encore aller glaner les derniers épis de la moisson. » Et voilà, ça calme le tout. Mais il y a encore autre chose. Ça, c'est la surface. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Je reprends. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais raconte !» Et Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ses 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Naomi a compris qu'il y avait un code. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Bon, c'est là je pousse un peu les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Naomi est retournée à Bethléem. Quand elle est arrivée dans la ville et que les gens disaient est-ce bien là Naomi? Et son nom qui veut dire la joyeuse, l'aimable, celle qui a tout, etc. Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi, parce que quand je suis partie, j'étais dans l'abondance, mais je reviens à vide. Et Boaz lui dit, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Donc ce grain, il n'est pas pour Ruth. Ce grain, il est pour Naomi, pour qu'elle comprenne que Boaz va faire ce que Naomi lui demande. C'est-à-dire que Boaz va relever la descendance de Naomi. Il va la restaurer. Et si la descendance de Naomi est relevée, Naomi, elle va retrouver son statut social. Ça veut dire que Boaz, il dit, je vais épouser Ruth, je vais lui donner des enfants. Et puisqu'elle est ta belle-fille, ses enfants vont relever la descendance de son défunt mari. Mais en plus de ça, ça signifiera évidemment que la descendance du père du défunt mari de Ruth va être relevée. Et toi, Naomi, qui est la femme d'Elimelech, eh bien, tu seras rachetée, tu seras restaurée dans ton identité, dans la société. Tu vas retrouver ta place. Et Naomi le comprend. Elle comprend qu'il y a un code. Elle comprend qu'il est déterminé. Parce que Ruth s'est sacrifiée. Et nous verrons que la vie de Ruth aussi, elle sera complètement restaurée. Bien plus que tout ce qu'elle aurait pu espérer. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Nous avons tous besoin de passer à ces terres de vannage. Nous avons tous besoin que la paille qui nous colle à la peau soit enlevée pour que nous puissions entrer complètement dans la destinée que le Seigneur a dit sur nous, a préparé sur nous. Il faut que nous soyons d'accord. Et nous n'arrivons pas à enlever cette paille par nous-mêmes. Nous pouvons en prendre conscience parce que seulement son Saint-Esprit nous le dit. C'est important qu'on comprenne ces choses-là. Et aujourd'hui, je vous demande de préparer vos cœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bataille? Marianne, je peux te demander de venir au clavier, s'il te plaît? Puis le groupe de l'ange, vous pouvez peut-être déjà vous préparer. Préparez vos cœurs. Tu mets juste une nappe tout doucement, juste pour soutenir. Tu fais même pas une mélodie, en tout cas pas qu'on la reconnaisse. Juste pour soutenir. Et essayez de bien vous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, quand Boaz il dit à Ruth, toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire toute la ville, sait que tu es une femme vertueuse, sait que tu es une femme de valeur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je trouve que c'est tellement important. Ce mot « valeur », une femme de valeur, il se trouve dans Ruth 3, verset 11. 3:1:1. Ça fait penser à Proverbe 31, verset 10. C'est la partie qui parle de la femme vertueuse. Et dans la Bible hébraïque, le livre de Ruth et le livre des Proverbes, ils sont l'un à côté de l'autre à cause de cette référence à cette femme de valeur. Mais il y a quelque chose de plus important. C'est que ce terme valeur, de nouveau, il a plusieurs significations. Et la plupart du temps, dans la parole, ce terme il signifie puissance armée. Et quand au début du chapitre 2, il est dit que Boaz était un homme puissant et riche, c'est le même terme. Donc quand on parle de la femme vertueuse, c'est aussi la femme puissante. C'est une femme qui, avec l'épée spirituelle de la prière, peut terrasser des géants. C'est une femme puissante dans sa mentalité. Boaz est en train de dire, tu es une femme puissante. Plus tu te soumets, plus tu es dans l'obéissance, plus tu t'abaisses pour servir les autres, plus tu reconnais que devant Dieu, tu n'es rien, que sans Dieu, tu n'es rien, et plus tu es puissant, parce que Dieu va pouvoir t'utiliser, va pouvoir t'élever, va pouvoir te donner toute la puissance spirituelle, la puissance dans les lieux célestes dont tu as besoin. Et le jour où le Seigneur reviendra te chercher, tu n'auras pas à rougir devant lui, parce que tu te seras donné entièrement à lui. Alors, Aujourd'hui, j'aimerais faire un appel. Je vais demander aux membres du conseil d'être prêts. Juste à poser les mains sur les personnes qui vont s'avancer si vous le désirez. Si quelqu'un a besoin d'être vanné, si quelqu'un a besoin que de la paille soit séparée, si le Saint-Esprit convainc ton cœur, il y a une chose dont j'aimerais être séparée. Il y a cette habitude qui m'empêche de m'engager. Il y a cette peur qui me colle à la peau. Il y a peut-être cette addiction qui fait que je n'arrive pas à passer un cap. S'il y a quelque chose que vous avez juste envie de confesser, vous le direz juste aux membres du conseil, juste dire un mot. Ne partez pas en explication. C'est une confession. C'est juste pour dire, je renonce à telle chose. Mais c'est le Seigneur qui va le faire en moi. Il va faire la part que je ne peux pas. Et si quelqu'un n'a jamais eu l'occasion de donner pleinement sa vie au Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore eu cette rencontre, ne lui a encore pas dit, mais Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi, que tu es mort à la croix, que tu as pardonné mes péchés et je reçois ton pardon. Si quelqu'un a envie de faire cette démarche, eh bien c'est l'occasion aussi de le manifester. Alors je vous demande de vous lever. Nous allons tous nous lever ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui a envie de répondre à cet appel, qui se sent concerné, eh bien je vous invite à vous avancer. Et nous allons tous prier ensemble. Nous allons tous demander au Saint-Esprit de venir. Saint-Esprit, moi je te demande ta présence. Viens convaincre nos cœurs. Viens toucher nos cœurs, Saint-Esprit. Viens encore. Je te demande, Seigneur, de briser les forteresses. Brise tous les obstacles. Que tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être vrai devant toi soit brisé. Je te demande, Seigneur, ta puissance. La puissance de conviction. La puissance de conviction de péché. Nous avons tellement besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens nous montrer où nous en sommes. Prends-nous par la main. Dirige-nous sur cette ère de battage, cette ère de vannage. Nous savons que tu fais les choses en douceur. Tu ne vas pas nous battre. Tu vas nous débarrasser de tout ce qui nous fait obstacle à ta présence. Viens, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens transformer nos cœurs. Kara yashente korobere yashira bakai. Hora yantafare yashente kei. Hora bare yantashi. Ceux qui parlent en langue, parlez en langue. Seigneur Jésus, nous invoquons ta présence. Nous invoquons la puissance de ton Saint-Esprit. Brise les forteresses, ébranle les puissances. Ébranle les puissances. Je vais demander aux membres du conseil, allez poser vos mains. Allez poser vos mains sur les personnes qui sont avancées. Priez encore, invoquez le Seigneur, invoquez le Seigneur, que sa puissance se manifeste. Brise, Seigneur, brise les puissances des ténèbres. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Je te demande de briser les peurs, de briser l'anxiété, de briser les craintes, de briser tout, de briser l'orgueil, les racines de l'orgueil, tout ce qui fait qu'on a tellement de mal à se donner à toi. Viens à notre secours par la puissance de ton esprit. Kereyashoko, je te demande de restaurer les vies. Restaure les vies brisées. Je te demande un nouvel élan, je te demande un nouveau souffle de vie. Viens, viens Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi Seigneur. Convainc encore les cœurs Seigneur. Convainc les cœurs. Brise les obstacles Seigneur. Là où il y a un manque d'assurance, je te demande de restaurer les identités brisées. Seigneur, restaure les cœurs brisés. Restaure là où les identités ont été brisées, faussées. Je te demande, Seigneur, que tous ceux qui ne sont pas sûrs de leur identité en toi, je te demande qu'ils soient affermis. Donne-leur ton assurance qu'ils sont enfants de Dieu. Guéris, Seigneur, relève. Relève, restaure, change nos mentalités, change nos cœurs. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu nous nettoies, parce que tu nous libères. Jésus, cours, peint, chaud, bayenta shake, kere yenta hapa kari yeshen. Pose ta main, Seigneur, pose ta main, pose ta puissance et guéris, Seigneur. Restaure encore. Kore yenta shake, kore bayenta shake, kore yenta shake. Harabala in the head, the cave. Kore yashe, 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 kore yashe